avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Exprimez-vous en direct sur RFI durant les 20 prochaines minutes. Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Tous les sujets nous intéressent. Aucun sujet n'est tabou. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez donc au 33 9 693 693 70. Je vois que certains d'entre vous postent en ce moment des commentaires sur la page Facebook de l'émission. Évidemment, si vous souhaitez prendre la parole en direct sur RFI, n'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone. Vous nous envoyez évidemment vos coordonnées sur message privé. Nous allons commencer cette libre antenne avec la conférence internationale sur la Centrafrique qui s'est tenue hier à Bruxelles. Jérôme Bastion en parlait il y a quelques instants dans le journal. Le président Touadéra qui s'est donc rendu en Belgique. Il espérait mobiliser 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour reconstruire son pays. Finalement, les donateurs, le FMI, la Banque mondiale, la France, les États-Unis, l'Union européenne, les donateurs se sont engagé à débloquer un peu plus de 2 milliards de dollars sur 3 ans. Bonjour Christian.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bangui et même si le président Touadéra n'a pas atteint l'objectif qu'il espérait, vous êtes malgré tout content de cette dynamique créée et suscitée hier à Bruxelles.
Oui, effectivement Juan, je suis content mais d'abord soulagé de constater que la communauté internationale ne s'est pas détournée de la RCA, parce qu'on aurait pu s'interroger avec le retrait de la force Sangaris, avec l'agenda international très chargé sur les questions de paix au Moyen-Orient, les questions de lutte contre l'État islamique ou Boko Haram. Et donc, il est quand même plaisant de constater que la solidarité internationale demeure encore à l'œuvre en République centrafricaine.
Vous en doutiez donc, Christian. Et d'ailleurs, des auditeurs nous disaient hier, effectivement, craindre une faible mobilisation des donateurs à l'égard de la Centrafrique, d'autant que vous qui êtes sur place, sur le terrain, vous avez vu les militaires français quitter la Centrafrique au début du mois, avec la fin officielle de l'opération Sangaris. Alors, avec ces 2 milliards de dollars, le président ne pourra pas réaliser l'intégralité du plan qu'il avait prévu pour reconstruire le pays, mais c'est quand même une somme importante qui va lui permettre de financer le désarmement, la démobilisation, la réinsertion des combattants, et c'est ça tout de même la priorité numéro un.
Oui, la priorité numéro un, c'est cet aspect de la sécurité. Et aujourd'hui, le DDRR, mais aussi la RSF, la réforme du secteur de la sécurité, avec la reconstruction d'une nouvelle armée, sont les priorités. Je pense que ça, c'est déjà pris en compte dans le budget de 2,2 milliards sur 3 ans. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que en fait, si on fait un calcul au prorata des années, on est peut-être un petit peu au-dessus des attentes primaires, puisque au départ on voulait 3 milliards sur 5 ans, on a 2,2 milliards sur 3 ans. Je pense que il y a largement de quoi faire maintenant que nous avons cet appui indéfectible de la communauté internationale.
Ouais, effectivement. Reste à savoir maintenant si la communauté internationale respectera ses engagements. Il s'agit, je le rappelle tout de même, de la 5e conférence du genre sur la Centrafrique. Et bien souvent, les bailleurs de fonds n'ont jamais versé la totalité des sommes promises lors des conférences internationales. Merci d'avoir été avec nous, Christian. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée à Bangui. Alpha, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry et vous profitez de la libre antenne pour nous interpeller sur la décision de Vladimir Poutine de claquer la porte de la Cour pénale internationale.
Oui, effectivement, c'est un message fort, à la fois inquiétant, fort parce que c'est une puissance mondiale qui décide de se retirer de la Cour. Et au-delà de son engagement juridique, sa signature était un symbole pour les pays, pour les petits pays qui se sentaient un peu marginalisés par la Cour. Maintenant que la Russie décide de se retirer, elle renforce et réconforte la position des États africains qui ont déjà engagé le retrait, mais aussi elle motive les autres États africains qui ont des velléités de quitter ou bien de rester à la Cour.
Ouais. C'est vrai que la décision de Vladimir Poutine, c'est un coup dur hein, pour la Cour pénale internationale après la la décision prise il y a quelques semaines par le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie de claquer la porte de la Cour pénale internationale. À la différence tout de même, c'est que les trois pays africains, eux, avaient ratifié le statut de Rome, donc l'acte de naissance de la CPI. La Russie s'était jusqu'à présent, si vous me permettez l'expression, contentée seulement de signer le statut, pas de le ratifier. Donc peut-être que la portée sera moindre.
Oui, bien entendu, mais comme je dis que sa signature était un symbole, maintenant il y a un fait qu'on ne dit pas souvent dans les médias. Depuis les événements de 2011 en Libye, il y a certains États africains qui approuvent et qui partagent la politique étrangère de la Russie, et qui, c'est-à-dire qu'ils voient la Russie comme pas une puissance donneur de leçons, une puissance qui s'ingère dans les affaires internes des États. Maintenant, est-ce que ces États-là qui ont les velléités ne vont pas dire qu'ils vont, maintenant, tant bien que mal, si nous nous débarrassons de la Cour, nous ne serons pas quand même orphelins de Cour, il y a une puissance qui a un droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Et cette puissance va jouer pour nous et elle va nous parrainer, elle va être notre parrain. Mmh. Et même si nous avons des dossiers qui sont un peu flous, un peu inquiétants, et cette puissance peut barrer la route à la Cour pour l'empêcher de se saisir de certains dossiers.
Ouais. Donc vous semblez regretter, à vous entendre, la décision de la Russie et la décision des trois pays africains, des pays africains qui dénoncent une justice de deux poids, deux mesures. Quelque part, ils n'ont pas tort tout de même, Alpha. Puisque depuis la création de la CPI, la Cour n'a inculpé que des personnalités africaines.
Oui, Juan, on peut critiquer la Cour, je suis d'accord. Moi, je légitime la Cour, même si je ne la légalise pas, je la légitime. Parce que je ne dis pas que ce sont uniquement les pays africains, mais je dis que la Cour, alors, elle est là pour les pays sous-développés, parce qu'il n'y a pas que des pays sous-développés sur le continent africain. Et maintenant, quand on regarde le tout dans le tout, on va dire que la Cour est là comme un garde-fou. Elle sert de garde-fou pour nos États et nos chefs d'État qui seront tentés par la force du pouvoir, par la raison d'État, de dire et d'user de leur pouvoir pour devenir des dictateurs ou bien pour modifier des constitutions et faire des choses que leur peuple sont totalement en compte.
C'est un argument qui revient souvent, notamment concernant donc les trois pays africains qui ont claqué la porte de la CPI, des présidents qui ont pris cette décision pour éviter des poursuites de la justice internationale. Merci Alpha de nous avoir appelé de Conakry et bonne journée sur place. On va prendre plusieurs auditeurs du Congo qui souhaitent nous parler de la situation sécuritaire dans la région du Poule, une région située au sud de la capitale Brazzaville. Ça fait maintenant 7-8 mois que les forces de sécurité traquent les hommes du pasteur Ntoumi. Bonjour Blaise.
Bonjour Monsieur Roy.
Blaise, merci de nous appeler de Brazzaville. Le pasteur Ntoumi, il est accusé d'avoir perpétré l'attaque qui avait secoué les quartiers sud de Brazzaville lors du scrutin présidentiel de mars dernier. La traque continue et vous dites qu'elle doit continuer. Il faut traquer jusqu'au bout le pasteur Ntoumi et ses hommes.
Oui, absolument Monsieur Roy. Elle doit non seulement continuer, mais elle doit aboutir à l'arrestation de Monsieur Bitsambou Félix, que vous appelez Ntoumi. M. Bitsambou Félix n'a aucune raison de faire ce qu'il fait. Aucune raison. Chacun de nous est libre de contester une élection et ça se passe partout dans le monde. Mais de là, à poser les actes qu'il pose, à attaquer des commissariats, à attaquer des véhicules, à détruire même des ponts, M. Rouen, vous imaginez, ces ponts sur le chemin de fer ont été construits autant que l'Afrique équatoriale française. Donc on a la colonisation. Et lui se plaît comme ça à le faire sauter. Et on fait quoi de lui, M. Wang? On doit le traquer, on doit l'arrêter, il doit nous dire pourquoi il fait ça. C'est aussi simple que cela, M. Wang.
Ouais. Le président Denis Sassou Nguesso s'est exprimé sur la situation dans le Poule. Il a dit, on ne tuera pas Ntoumi, il y aura un procès, il répondra de ses actes. Voilà les propos du président Denis Sassou Nguesso. Giscard, vous nous appelez également de Brazzaville, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous écoute également sur la situation sécuritaire dans cette région du Poule.
Oui Juan, la situation sécuritaire dans la région du Poule inquiète tout le monde. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est les propos tenus par le président de la République lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de crise dans la région du Poule. Je ne sais pas quels sont les qualificatifs que le président peut donner à cela.
Ah bah, moi, je peux vous le dire, si vous l'avez écouté, vous l'avez écouté et entendu comme moi, Giscard, il l'a dit, ce n'est pas une crise, mais c'est du banditisme.
Non, Juan. On ne doit pas. Si c'est du banditisme, pourquoi on le qualifie de terroriste? Mmh. On doit nous dire. Parce qu'on le qualifie de terroriste, c'est qu'il y a une crise. Mais la logique serait que on ne résout pas une crise telle qu'elle se présente rien que par la guerre. Si on n'en arrive pas, passons à la deuxième solution. Donc la solution B, négocier.
Mais négocier quoi? Que doit négocier le gouvernement avec le pasteur Ntoumi?
Que doit négocier le gouvernement avec le pasteur Ntoumi? Mais négocier la paix. Négocier la paix, Juan. Parce que après les événements du 4 avril 2016, quelques jours après, on l'a bien suivi sur la radio, Ntoumi avait envoyé des émissaires à Brazzaville qui ont négocié avec le ministre de l'Intérieur. Mais jamais on a entendu le résultat de ces négociations. Donc ce qui veut dire que ça avait échoué. Mais continuons les négociations au lieu de continuer à faire marginaliser les populations du Poule.
Ouais. Blaise, vous écoutez Giscard, votre compatriote, vous êtes d'accord avec lui, il faut négocier?
Non, pas du tout, monsieur Juan. Pas du tout. Et le chef d'État a vu juste, il n'y a pas de crise au Poule. Je dois vous informer que le Poule traverse toute la ville de Brazzaville. Ce département est l'un des plus grands du pays. Il n'y a pas de crise là-bas. Pour qu'il y ait crise, il faut qu'on observe que les institutions installées dans le département ne fonctionnent pas. Que les administrations ne fonctionnent pas, que le pool, ce bâtiment n'est pas fréquentable. Alors que, à ma conscience, M. Juan, tout fonctionne normalement dans le pool.
Ouais.
Il y a un individu qui s'est rébellé, qui s'est réfugié quelque part, et on doit le traquer simplement. On va négocier pour faire quoi? Pour dire quoi?
Enfin, tout fonctionne, tout fonctionne, le climat sécuritaire s'est quand même dégradé ces derniers mois dans le Poule et encore ces dernières semaines. Hein. Plusieurs milliers de personnes ont dû fuir leur village, donc tout ne fonctionne pas comme il se doit. On aura l'occasion de revenir évidemment sur cette actualité dans les prochaines semaines, puisque c'est un sujet un peu récurrent et qui, je le vois bien au regard des réactions, ne vous laisse pas indifférent. Blaise et Giscard, merci à tous les deux de nous avoir appelés. 33 9 693 693 70, c'est la crise politique au Gabon qui vous intéresse également. On continue de recevoir des appels sur cette actualité. Bonjour, alors on va commencer avec Natacha. Bonjour Natacha.
Bonjour Juan.
Alors, vous êtes à Lyon. Je parle de crise politique puisque ça fait maintenant un peu plus de 2 mois et demi que l'élection présidentielle a eu lieu, que l'opposant Jean Ping se présente toujours comme le président élu et qu'il rejette l'idée d'un dialogue national proposé par le président Ali Bongo. Et vous comprenez la démarche de Jean Ping, l'opposant?
Oui, tout à fait. Je comprends effectivement la démarche du président Jean Ping. Le président Jean Ping n'est pas du tout dans cette optique d'aller dialoguer, car il considère, et nous aussi nous considérons à près de 60% de Gabonais, qu'il a été élu. Hein, et donc il n'est pas question qu'il puisse négocier avec un pouvoir illégitime qui est celui d'Ali Bongo. La seule négociation qui serait possible à l'heure actuelle, c'est les conditions du départ d'Ali Bongo Ondimba, qui a fait un hold-up électoral et qui a volé impunément aux yeux de tout le monde, la communauté internationale,
et pourtant le
vote des Gabonais.
Et pourtant, Natacha, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président Ali Bongo. Alors que fait-on? Que fait-on?
Alors, la Cour constitutionnelle est totalement illégitime au Gabon. Lorsque le président Jean Ping a recouru à la Cour constitutionnelle, c'est sous la pression diplomatique, et d'ailleurs pour pouvoir montrer aux yeux du monde qu'elle était tout simplement celle qu'elle a toujours été, notamment la tour de Pise, qu'elle penchait toujours du même côté. La Cour constitutionnelle est représentée déjà de manière illégale par une dame qui est Madame Boronchio, qui devrait logiquement ne plus être à son poste à l'heure actuelle. Donc elle est totalement illégitime.
Oui, mais expliquez-moi, Natacha, si elle est illégitime, pourquoi l'a-t-il saisi? S'il savait d'avance que le scrutin serait truqué, pourquoi a-t-il pris part à cette élection et pourquoi ne l'a-t-il pas boycotté?
Alors, parce que tout d'abord, M. Jean Ping est quelqu'un d'intègre. Et tout d'abord, pourquoi prendre part, effectivement, comme vous venez de le dire? Je pourrais retourner aussi la question aux institutions internationales qui ont eu, bien évidemment, écho des pratiques et qui savent, effectivement, comment fonctionne cette Cour constitutionnelle. Pourquoi ont-elles incité M. Jean Ping à aller vers ce recours, sachant, bien évidemment, que la réponse allait forcément être celle-ci? Donc, moi, on peut effectivement jouer à ce jeu-là et on tournera en rond. Aujourd'hui, il y a une élection qui a été faite. Aujourd'hui, il y a des résultats que tout le monde connaît. jamais. Tout le monde aujourd'hui, que ce soit l'opinion internationale américaine, française et africaine, savent effectivement que M. Jinping a été le président élu du Gabon. Nous demandons tout simplement à ces institutions-là de pouvoir légitimer nos résultats et qu'elles puissent effectivement ne pas accepter d'être humiliées de la sorte, bon. Puisque aujourd'hui nous savons très bien que M. Jinping est président.
Bon, c'est votre analyse, c'est votre analyse et vous avez le droit évidemment de l'exprimer, votre analyse des résultats. À chaque fois, chaque semaine, on reçoit beaucoup d'appels sur le Gabon. Jocelyn, vous êtes vous à Libreville? Bonjour Jocelyn.
Bonjour Juan.
Est-ce que vous partagez l'analyse de Natacha? À mon avis, non, si j'en crois ma petite fiche sous les yeux. On vous écoute.
Non, mais je ne partage pas vraiment l'avis de Natacha, parce qu'en fait, depuis plus de 2 mois, on est complètement dans l'impasse. On est complètement dans l'impasse. D'un côté, le pouvoir joue à l'apaisement. De l'autre côté, le camp de Ting refuse de cette initiative. Et à mi-chemin, on a la communauté internationale qui ne donne pas des indications claires. Et c'est l'impasse totale. Donc moi, à mon avis, il est tout à fait opportun d'aller vers un dialogue apaisé, de telle sorte qu'on puisse mettre tout sur la table, notamment les législatives, notamment les limitations de mandat présidentiel, le fonctionnement de la Cour institutionnelle, comme décrié par Natacha, hein, le fonctionnement de la commission nationale électorale permanente. Donc, autant de sujets, je pense que les opposants doivent s'asseoir sur la table et pour dialoguer là-dessus.
Et tenter de mettre fin à cette impasse politique. Natacha, en un mot, le président réélu Ali Bongo parle d'un dialogue sans tabou. Donc on peut parler de tout, Natacha.
Bien sûr,
de tous les sujets.
Les conditions de son départ.
Bon,
conditions de son départ. Tout simplement, c'est tout ce que nous demandons. Et je vais répondre au Gabonais qui vient de parler. Nous savons très bien que votre dialogue est tout simplement une occasion de légitimer votre pouvoir,
enfin, c'est pas
un pouvoir imposteur.
Excusez-moi, Jocelyn, ce n'est pas son dialogue, d'abord, pour commencer. Vous êtes peut-être militante de Jinping. Jocelyn, apparemment, lui, n'est pas militant. Il n'a pas forcément plaidé pour quelqu'un. Il estime que vivant là-bas pour sortir de la crise, à un moment donné, se mettre autour d'une table et de dialoguer. C'est d'ailleurs ce que préconise le numéro 2, Casimir Oyemba, le numéro 2 de l'opposition, qui a dit, au bout d'un moment, il va falloir effectivement dialoguer avec le camp Ali Bongo pour faire en sorte que les revendications de l'opposition puissent se concrétiser. Il nous reste 2 minutes 30, on avait prévu encore plein d'autres sujets. Alors on va prendre Yuba, qui est à Bamako. Bonjour Yuba.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako, au Mali, et vous souhaitiez revenir sur l'élection de Donald Trump. Et vous compreniez, vous, la mobilisation de tous ces Américains qui manifestent dans les rues des principales villes?
Ben absolument, parce que le monde doit s'inquiéter qu'un homme qui porte un discours aussi négatif sur l'égalité des hommes et des sexes puisse accéder à la tête de l'État le plus puissant du monde, et ce, par la voie de la démocratie. Et donc les gens ont raison de s'inquiéter, de ne pas être d'accord. Moi, je veux vous dire simplement, Juan, que je suis un homme fâché. Je suis fâché parce que je ne comprends pas qu'on veuille m'expliquer que oui, le discours qu'il a porté est un discours de candidat et qu'étant président, il ne le sera plus. C'est une façon pour moi de légitimer le discours raciste, de légitimer le vote raciste, de légitimer le vote misogyne.
Alors il a tenu des propos racistes, misogynes, xénophobes durant la campagne électorale. On le sent plutôt rassembleur depuis qu'il a été élu. Sur l'Obamacare, il dit on va peut-être pas l'abroger, on va peut-être seulement l'amender. Concernant l'immigration, il disait on va expulser 100 millions de clandestins. Finalement, là, il dit on va expulser ceux qui n'ont pas de papier mais qui ont commis des crimes. Donc on n'est plus qu'à 2 millions, vous voyez, d'expulsion, ce qui est à peu près ce qu'a fait Barack Obama ces dernières années. Donc voilà. Il y a une sorte de rétropédalage. Pour l'instant, on verra évidemment, puisque Donald Trump prendra officiellement ses fonctions le 20 décembre. Merci à tous de votre fidélité, c'est la Libre Antenne. On se retrouve, j'espère, avec plaisir lundi. Lundi, on sera au lendemain des élections municipales au Mali. Vous pourrez réagir au déroulement de ce scrutin hautement important sur place, d'autant que l'opposition dénonce déjà des fraudes et une partie des groupes armés du Nord contestent ces élections plusieurs fois reportées. On en parlera évidemment tous ensemble lundi matin.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.
À suivre, comme tous les matins, priorité santé.